Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue dans votre émission, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Ce samedi, nous consacrerons l'émission au regard des éditorialistes du continent. De quelle manière ont-ils perçu et analysé l'actualité marquante cette semaine? De Cotonou à Niamey en passant par Dakar, nos consoeurs et confrères nous livrent leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Dans la deuxième partie de ce débat africain, nous reviendrons sur la situation politique en France après le deuxième tour des élections législatives dimanche dernier. Et la victoire inattendue du nouveau front de gauche. Le pays est plongé dans une forme d'incertitude. Aucune majorité ne semble se dégager à l'Assemblée nationale. Et la perspective d'un pays ingouvernable inquiète la population française. Enfin, nous parlerons de la situation à Gaza. 280e jour de guerre ce samedi entre Israël et le Hamas. Les combats se poursuivent. Les discussions en vue d'un cessez-le-feu, elles aussi, elles continuent. Notamment au Qatar, mais toujours aucune issue en vue. Mais tout de suite, l'effet marquant en Afrique avec la création de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait un pas de plus vers leur sortie de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, unir leurs efforts sur le plan diplomatique et sécuritaire. Nous parlons également des 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Pour cela, trois invités sont en ligne avec nous de Dakar au Sénégal. Madiambal Diagne, journaliste et fondateur du journal Le Quotidien, président de l'Union internationale de la presse francophone. De Cotonou, Cécile Goudou, de l'Office de radio-télévision du Bénin. Enfin, Sédi Kaba, journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour Namori.
Bonjour.
Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples.
L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui.
Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO, déclaration du général Abdourahmane Tiani, chef du régime nigérien, suivi de la charge du capitaine Ibrahim Traoré, le chef des putschistes au Burkina Faso. C'était samedi dernier, à Niamey, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, qui réunissait le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les trois pays ouest-africains ont entériné leur alliance au sein de la Confédération des États du Sahel. Sédi Kaba, journaliste écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, l'annonce de cette confédération est-elle vraiment une étape déterminante pour la suite des événements au Sahel?
En tout cas, c'est une étape supplémentaire, voire décisive, dans la construction de cette alliance des États du Sahel qui, à partir du sommet de Niamey, devient une confédération de l'alliance des États du Sahel avec, au-delà de l'agenda sécuritaire et militaire, un agenda du développement, un agenda de la diplomatie collective avec beaucoup de nouvelles choses qui ont été ajoutées à ce qui avait été défini au moment de la création de l'Alliance en septembre 2023. En tout cas, on peut considérer Niamey comme étant un tournant dans la construction de cette confédération de l'Alliance des États du Sahel. On va, dans les prochains jours, voir comment cela va se structurer. Parce que je rappelle qu'entre la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre et le sommet de Niamey, il y a quand même eu plusieurs réunions ministérielles qui ont permis de mettre en place les instruments, le mode de gouvernance, les structures qui vont permettre à cette confédération de l'Alliance des États du Sahel.
Cécile Goudou, journaliste au sein de l'Office de radio-diffusion et télévision du Bénin. Sédi Kaba parle de tournant. Vous partagez ce point de vue? Il s'agit d'un tournant au Sahel?
C'est un tournant et c'est un tournant décisif. Le sommet de Niamey scelle l'irréversibilité de la création, de la sortie de ces pays-là, de la CEDEAO, et la Conseil Confédération qui est née marque un pas de plus. Pour ne pas dire ça, boucle déjà le processus entamé par ces trois pays-là pour sortir de la CEDEAO. Donc là, on n'est plus dans une situation d'éventualité, de probabilité et tout. C'est acté et c'est consommé, le divorce avec la CEDEAO, il est là.
Alors Cécile, comment l'annonce de cette nouvelle Confédération des États du Sahel a-t-elle été accueillie chez vous au Bénin?
Ça n'a pas surpris les Béninois. Hein. Quand on observe un peu la droite ligne de tous ces événements qui se sont succédés depuis que ces trois pays ont commencé par annoncer leur sortie de la CEDEAO, on s'attendait un peu à une conclusion, à une issue de cette facture. Donc, on n'a pas été surpris de voir que cette confédération est née et on a vu qu'un travail préparatoire a quand même été fait depuis tout ce temps et qu'ils sont pratiquement apparemment prêts pour prendre leur destin en main, comme ils le disent, en tant qu'une confédération à part hors de la CEDEAO.
Madiamba Diagne, journaliste et fondateur du journal Le Quotidien à Dakar au Sénégal, que pensez-vous de la Confédération des États du Sahel? Des États confrontés au péril djihadiste et qui décident de se réunir pour lutter contre cette menace, n'est-ce pas une bonne chose?
Je pense que l'alibi ou le prétexte de lutter contre le djihadisme ou tout autre alibi...
Vous pensez qu'il s'agit d'un alibi?
Non, ce n'est pas un alibi.
La menace est pourtant réelle, Madiamba Diagne.
Non, mais c'est des régimes qui sont totalement illégitimes, qui avaient prétexté lutter contre le djihadisme pour renverser les régimes politiques légitimes en place. Et on a pu constater que les résultats qu'ils ont engrangés sont pires que les résultats qu'ils dénonçaient, ou bien les performances ou les capacités opérationnelles des régimes qui ont été supplantés. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'un conglomérat de putschistes qui veulent se légitimer et qui veulent trouver un ennemi extérieur qui était d'abord la France. Maintenant, c'est plus d'actualité de parler de la mainmise de la France dans leur pays parce qu'ils ont supplanté la France par la Russie. Aujourd'hui, ils cherchent un ennemi extérieur, c'est la CEDEAO. Ils ne peuvent pas s'accommoder avec la CEDEAO parce que la CEDEAO est composée de régimes démocratiquement installés. Et eux, c'est des putschistes qui remettent en cause l'ordre institutionnel et qui donc ne peuvent pas se trouver dans un environnement convenable en étant avec les autres pères chefs d'État de la CEDEAO qui sont aussi dans l'obligation de les dénoncer et de fustiger leur volonté d'accaparement et de rester au pouvoir.
J'aimerais faire réagir Sédi Kaba au propos de Madiamba Diagne. Sédi Kaba, est-ce que ces régimes qui se sont constitués au sein de cette CES, cette Confédération des États du Sahel, sont-ils légitimes?
Ça dépend de comment on apprécie la légitimité. Si la légitimité s'apprécie simplement par l'organisation d'élections démocratiques, ces régimes ne sont pas ici de pouvoir d'élections démocratiques. Mais si on regarde un peu la popularité avec laquelle ils ont été accueillis, il y a une légitimité populaire qui n'est pas simplement la légitimité des urnes. Et à partir de là, on ne peut pas, si on regarde, sauf si on n'a pas la même liste de la CEDEAO, on ne peut pas prendre les 12...
Alors, Madiamba Diagne souhaite réagir. Madiamba Diagne à Dakar.
Je regrette de vous interrompre. On ne peut pas prétendre une légitimité populaire quelconque parce qu'il y a un casserole de putschistes qui ont des baïonnettes et qui, comme au Mali, emprisonnent les opposants, dissolvent les associations, mènent une terreur en enlevant des opposants. Les gens sont obligés de se mettre d'applaudir les putschistes pour sauver leur vie
aller en prison. Sédi Kaba, parole à Sédi Kaba.
Pas du tout. Les gens ne sont pas obligés. Les gens applaudissent les putschistes parce qu'il y a eu une faillite des régimes démocratiques aussi. Les régimes démocratiques n'ont pas brillé, ni au Niger, ni au Burkina Faso.
Alors, messieurs, je vous propose de donner la parole à notre consoeur Cécile Goudou au Bénin. Cécile Goudou, vous souhaitiez réagir?
Je ne suis pas d'accord quand on dit que les gens applaudissent les putschistes. Au fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec les putschistes dans ces pays-là, on ne les voit pas, on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer. Dans ces pays, aujourd'hui, on donne simplement la chance aux groupuscules qui sont avec ces putschistes-là pour les applaudir. L'autre partie de leur peuple qui n'est pas d'accord avec eux, est-ce qu'on les voit se manifester? Donc, on ne peut pas parler de légitimité populaire. Quel sondage a-t-on fait pour savoir que leur peuple sont vraiment avec eux de façon intégrale?
On ne vous mettra pas tous d'accord sur le sujet de la légitimité des régimes en place au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Néanmoins, j'aimerais qu'on revienne sur le fond de la création de cette CES, cette Confédération des États du Sahel. Sédi Kaba, cette nouvelle entité est-elle viable? Ne risque-t-elle pas d'entraver ou de menacer la libre circulation des biens et des personnes dans la région?
Non, cette entité peut se concevoir. Vous savez, ce qui a manqué jusqu'ici dans la lutte contre le terrorisme, c'est la construction d'une réponse transnationale, d'une réponse collective à un défi qui est devenu collectif. Chaque pays a, par le passé, essayé d'apporter la réponse au défi sécuritaire. Ça n'a pas marché. À partir du moment où la menace est devenue un système de vase communicant qui passe du Niger au Burkina, du Burkina au Mali, le fait que des États se mettent ensemble pour construire une réponse collective ne peut être que bien apprécié. Maintenant, moi, ce que je ne conçois pas, c'est le fait qu'on puisse penser l'alliance des États du Sahel comme une rupture avec la CEDEAO. Il y avait déjà avant l'alliance des États du Sahel un G5 Sahel à côté de la CEDEAO.
Donc pour vous, ce n'est pas une rupture avec la CEDEAO, la création de cette CES, Sidi Kaba ?
La démarche qu'eux, ils assument, là où je ne suis pas d'accord avec la démarche actuelle, c'est cette démarche de dire que nous sommes dans une construction exclusive, que c'est l'AES ou la CEDEAO, alors qu'on peut avoir l'AES et la CEDEAO, comme on a eu la CEDEAO et le G5 Sahel.
Alors, la création de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel par les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger illustre la profonde crise en cours en Afrique de l'Ouest entre les pays dirigés par les putschistes et la CEDEAO. Coïncidence ou pas, la création de cette CES avait lieu à la veille du 65e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dimanche dernier à Abuja au Nigeria. Naturellement, la Confédération de l'AES était au cœur des discussions. Selon vous, acte-t-elle vraiment une rupture irréversible entre ces deux blocs, Madian Baldiane?
Moi, je suis étonné que notre ami Sidi Kaba veuille justifier ou bien veuille concevoir qu'il peut y avoir une coexistence entre les États du Sahel, cette confédération au sein de la CEDEAO. Eux-mêmes l'ont clairement dit qu'ils s'excluent de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la CEDEAO est appelée à demander au président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal de chercher la médiation pour les faire revenir dans la maison. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire revenir quelqu'un qui n'est pas sorti. Donc, c'est vous dire que la volonté ou l'engagement des putschistes de quitter la CEDEAO est clair, c'est une fuite en avant. Il faut qu'ils trouvent un ennemi extérieur, en l'occurrence la CEDEAO, pour considérer que la CEDEAO menace leur régime. Et justement, cette impopularité de ces régimes-là se fait sentir. Il faut aller sur le terrain à Bamako, à Ouagadougou ou à Niamey, pour constater que la situation s'est davantage empirée. Il y a des crises d'électricité à n'en plus finir, il y a des difficultés économiques à n'en plus finir, et ce ressenti des populations est réel. Donc, de plus en plus, ils sont isolés, de plus en plus, ils sont impopulaires, et c'est à ce moment-là qu'ils se serrent les coudes pour pouvoir dire « nous nous mettons ensemble pour rester au pouvoir le plus longtemps possible ».
Alors, Madian Baldiane, on a bien compris ce que vous voulez dire. Hein. Selon vous, la CES et la CEDEAO ne peuvent pas cohabiter au Sahel. Ce n'est pas forcément l'avis de notre ami Sidi Kaba. Qu'en pensez-vous, vous, Cécile Goudou, au Bénin? La CEDEAO risque-t-elle de se désintégrer avec la création de cette CES?
Je ne pense pas à la CEDEAO. C'est quand même pas trois pays. Hein. C'est une quinzaine de pays. Donc, sans ces trois pays, je pense que si la communauté se repense, comme beaucoup de voix s'élèvent pour le dire, on a dit que les pères fondateurs de la CEDEAO rêvaient d'une CEDEAO des peuples, ce qui a commencé par se réduire à une CEDEAO des chefs d'État. Si on peut déjà corriger cette équation, je pense que la CEDEAO peut demeurer, même si à côté, on a cette confédération des États du Sahel. Par contre, même si le divorce est consommé, moi je me dis, cette confédération, ils ont besoin de discuter, la CEDEAO et cette confédération ont besoin de discuter sur des questions sécuritaires.
Et d'ailleurs, la CEDEAO a laissé, entre guillemets, la porte ouverte pour des discussions, puisque le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été diligenté pour jouer un rôle de médiateur entre ces trois pays et la CEDEAO.
Pour l'instant, ces trois pays se font prier. On attend de voir s'ils vont... De toutes les façons, ils n'auront pas le choix à un moment donné, parce que quand vous avez, par exemple, des incursions, des terroristes qui frappent dans le nord du Bénin, se replient sur le Burkina Faso ou le Niger, quitte à revenir et vice-versa, à un moment donné, ils auront besoin de coopérer avec la CEDEAO, tout au moins sur le plan sécuritaire. Même si dans tous les autres domaines, ils estiment aujourd'hui que c'est eux qui ont la solution, à la science infuse, et que tout ce qui a été fait jusque-là dans cette communauté est à bannir, ils n'auront pas le choix. La coexistence aussi implique la sécurité de leur peuple, même si aujourd'hui, ils ont mis les cadenas sur les portiques des frontières. Il va falloir parler tout au moins sur cet aspect sécuritaire, parce que le terrorisme ne sait pas donner des frontières, pour que ces trois pays estiment aujourd'hui qu'il faut tout fragmenter et ne plus se parler sur certains sujets.
Eh bien, l'avenir nous dira si la CES et la CEDEAO peuvent négocier, discuter au Sahel. Les turbulences entre ces pays de la CES et la CEDEAO, on continue bien évidemment d'en parler sur RFI, notamment dans la revue de presse Afrique chaque matin avec Frédéric Couteau et Catherine Potet.
Le débat africain.
Nous venons de l'évoquer à l'instant, Bassirou Diomaye Faye, le président élu du Sénégal, a été mandaté pour jouer le rôle de médiateur avec les pays de la CES. Mais cette semaine, le chef d'État sénégalais a également franchi le cap symbolique des 100 jours à la tête du pays. Son élection a été un moment d'optimisme et d'espoir pour nombre de Sénégalais. L'occasion pour nous de faire un premier bilan du Sénégal sous l'ère Bassirou Diomaye Faye. Madiambal Diana Dakar, le cinquième président sénégalais, bénéficie-t-il toujours de ce que l'on appelle l'état de grâce?
Il faut dire que c'est une situation assez ambivalente. Comme vous le dites, il a été porté par un élan populaire et beaucoup d'espoir. Mais confronté à la réalité du pouvoir, on a vu beaucoup de mécontentement s'exprimer ça et là. Des jeunes qui avaient porté le régime de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir ont commencé à sortir dans les rues pour faire des manifestations violentes parce que leurs attentes ont été déçues. C'est un premier constat. Le président Bassirou Diomaye Faye, ce samedi, va faire une conférence de presse bilan de ses 100 premiers jours. On attendra de voir quel bilan il va en tirer lui-même. Mais nous constatons qu'il y a eu un peu de l'étonnement ou de la surprise de la part de beaucoup de Sénégalais, parce qu'une fois arrivés au pouvoir, le référentiel de politique économique qu'ils avaient brandi depuis toujours en disant que c'était sur la base de leur gouvernement ou de leur projet de gouvernance n'existait pas. On a pu malheureusement observer que le gouvernement a indiqué qu'ils sont en train de créer ce référentiel de politique économique, ce qui veut dire qu'ils n'étaient manifestement pas préparés à la gouvernance du pays. Et c'est ce qui fait qu'ils sont obligés de continuer le programme Sénégal émergent laissé par le président Macky Sall et continuer à s'appuyer sur les relations ou bien l'accord de programme entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, avec les implications que cela emporte pour le gouvernement, c'est-à-dire l'absence de levier pour jouer par exemple sur le cours des dents ou bien le cours de la vie. De ce point de vue-là, il ne peut pas satisfaire à leur promesse électorale.
Alors, Madiambal Diane, vous nous dites que le nouveau pouvoir sénégalais n'était pas forcément prêt à exercer le pouvoir. Sidi Kaba, qu'en pensez-vous? Que retenez-vous des 100 jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal?
Il est évident qu'en 100 jours, on ne peut pas faire de réformes structurelles. On peut quand même avoir un cap. Il a été possible de faire les états généraux de la justice du Sénégal, parce que...
Oui, parce que certaines mesures ont été avancées, certaines initiatives ont été prises, hein, vous parlez de la justice, mais oui, je fais également référence à la baisse du coût des denrées de première nécessité, le pain, le riz, le lait...
Exactement, du coût des denrées, la renégociation de certains contrats qui ont été des contrats léoniens. Il y a des choses qui sont des réformes structurelles qu'on ne peut pas engager dans 100 jours. Mais à côté de ça, il y a eu quelques horreurs de gouvernance qu'on ne peut pas ne pas retenir. Mais globalement, il y a quand même des choses, un changement de cap sur certaines questions et il faut attendre de voir comment ils vont négocier à condition qu'ils rectifient. À mon avis, il y a eu quelques flottements, par exemple lorsque la sortie du Premier ministre contre une certaine partie de l'opinion ou même contre la presse, qui sont des échecs à mon avis à mettre sur le compte des 60 jours. Mais il y a des orientations, il y a des choses qui montrent qu'ils sont venus pour apporter un certain nombre de réponses, un certain nombre de changements. À mon avis, 100 jours, c'est beaucoup trop tôt pour avoir un bilan, mais on peut faire le cap. Et de ce point de vue, il y a quelques mesures quand même importantes qui ont été prises.
Cécile Goudou au Bénin, Bassirou Diomaye Faye a promis une gouvernance axée, centrée sur la rupture et la justice sociale. Considérez-vous qu'il est sur la bonne voie?
On ne peut pas vraiment faire un bilan net, mais déjà, on retient que, au fait, Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir dans un contexte où il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'urgences. Donc la situation était complexe et comme le disait mon confrère sénégalais, il y a vraiment cette capacité de passer à tous les dossiers en même temps qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour gouverner, mais il fallait vraiment des leviers sur lesquels il va s'appuyer et il n'a pas très vite trouver ses bêtises sur certains points. Par contre, sur certains points, il a fait des choses qui ont déjà fait tache d'huile. Vous l'avez évoqué, la réduction des prix de certaines denrées très consommées, le pain, l'huile et autres. La réforme de la justice, il n'a pas tardé sur ce chantier-là. Mais en 3 mois, tout ce que Diomaye Faye a promis et tout ce que les Sénégalais attendaient de lui, il ne pouvait pas le faire. La cherté de la vie, il ne peut pas régler ça en 3 mois. L'équation chômage, les jeunes Sénégalais attendent beaucoup de lui. Mais l'équation du chômage, on ne règle pas ça dans une opération express. Ce sont des chantiers qui seront des chantiers de longue haleine. Il va falloir de vraies politiques structurelles
pour pouvoir relever ces défis-là. Et en 3 mois, je ne pense pas qu'il pourra le faire.
Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur les 100 premiers jours de pouvoir de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. C'est le moment de faire une courte pause dans ce débat africain. Restez avec nous juste après le journal. Nous parlerons de la situation politique en France après le second tour des élections législatives. La perspective d'un pays ingouvernable inquiète. Enfin, nous parlerons de la situation à Gaza, 280e jour de guerre entre Israël et le Hamas.
Le débat africain, Namori Dosso.
Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI, une émission consacrée cette semaine au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts dans un monde en perpétuel mouvement. 3 journalistes du continent sont avec nous, de Dakar au Sénégal, Madiambal Diane, journaliste et fondateur du journal Le Quotidien, également président de l'Union internationale de la presse francophone. De Cotonou, Cécile Goudou, journaliste au sein de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Enfin, Sédi Kaba est également avec nous, journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. C'est donc le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête du second tour des législatives dimanche dernier en France. Un scénario surprise après les résultats du premier tour qui plaçait le RN, le Rassemblement National, parti d'extrême droite, en première position. Le NFP a obtenu 182 sièges de députés. Ensemble, le camp présidentiel, 168 sièges. Enfin, le RN, 143 députés. Depuis l'annonce des résultats, le pays est plongé dans une forme d'incertitude. Qui sera nommé Premier ministre ? En attendant de connaître la réponse, je me tourne vers vous, Sédi Kaba. Envisagiez-vous un tel épilogue dans ces législatives françaises ?
Honnêtement, non. Je n'ai pas vu la victoire du nouveau Front populaire. On avait estimé, sur la base des premiers résultats du premier tour, que le Rassemblement national arriverait en tête, même si il était envisagé qu'il n'ait ni majorité absolue, ni majorité simple. Mais c'était lui qui était attendu.
Alors, selon les sondages, le RN était crédité de 200 sièges, au moins 200 sièges à l'Assemblée nationale française.
C'est tout à fait exact. C'est ce qu'on attendait, suivi du nouveau Front populaire et puis après le reste. Et il faut dire que, en réalité, cette dissolution qui a été voulue par Macron pour apporter de la clarification a ajouté à la confusion. Puisque, comme vous avez si bien dit, il n'y a pas aujourd'hui de majorité et Macron lui-même a ajouté à cette confusion à travers la lettre aux Français qu'il vient de publier disant qu'il n'y a pas de vainqueur.
N'y a-t-il pas une forme de provocation de la part du chef d'État français ?
Les résultats sont là. Peut-être que ce n'est pas le résultat auquel lui, il s'attend. Et à partir du moment où ce n'est pas le résultat auquel il s'attend, il pense avoir encore une marge de manœuvre pour pouvoir nommer un autre premier ministre ou choisir. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Et globalement, pour moi, l'idéal d'apporter de la clarification, puisque Macron a dit qu'il voulait la dissolution pour la clarification, n'a pas été atteint. Aujourd'hui, la dissolution a ajouté à la confusion. Et en plus de ça, ce qu'on a observé, c'est que Macron est en train de perdre l'autorité sur son propre camp. Il est lui-même contesté dans son propre camp.
Alors on reviendra tout à l'heure sur la situation du chef d'État français. En attendant, Cécile Goudou, vous aussi, vous avez été surprise par le résultat final de ces élections législatives en France ?
Oui, j'ai été surprise par ces résultats et j'ai été également surprise par ces compromis parfois incestueux qu'on n'a jamais vus sur la scène politique.
Compromis incestueux, à quoi faites-vous référence très précisément ?
Regardez toutes ces alliances, rien que juste pour faire barrage au Rassemblement national. On a vu des partis vraiment qui ont des visions très hétéroclites de la politique française qui se sont juste mis ensemble pour arriver là. Du coup, ça a donné naissance à une Assemblée nationale très parcellisée autour de laquelle on va observer vraiment beaucoup de gymnastique pour pouvoir gouverner. Mais comme le disait Sédi Kaba tout à l'heure, la posture de Macron qui m'a beaucoup plus surprise même après la déclaration de ces résultats-là.
Selon lui, aucun camp ne s'est imposé à l'issue de ce scrutin.
On dirait que Macron n'est pas au courant des résultats de ces législatives. Il n'y a pas eu de majorité absolue, on est d'accord, mais il y a quand même eu un front qui est arrivé en tête et qu'il demande aujourd'hui dans sa lettre qu'il y ait maintenant un autre rassemblement à faire autour des valeurs républicaines claires et partagées. Et attendez, on a vu quand même toute cette divergence autour de même des amis qui se sont mis ensemble rien que pour
pour faire barrage au Front National. Il y a trop de divergences pour que Macron demande aujourd'hui qu'on construise une majorité à l'Assemblée nationale et à partir de là, il va nommer un premier ministre. Ça ressemble à de la provocation.
Alors, j'aimerais qu'on entende notre confrère à Dakar, Madian Baldian. Comment les résultats des élections législatives françaises ont-elles été analysés et accueillis au Sénégal?
Bon, j'ai l'habitude de dire que la presse ou les médias sénégalais sont plus ou moins très introvertis et ne s'occupent pas beaucoup trop de la situation politique en France. Néanmoins, il y a quelques peut-être articles ça et là, ou bien peut-être des discussions au niveau d'une certaine élite politique ou intellectuelle. Moi, si je peux donner un point de vue personnel, c'est simplement dire que Macron, à mon avis, était obligé de réagir politiquement après les élections européennes. Je pense que la France était déjà engagée dans une campagne électorale permanente jusqu'à la présidentielle de 2027. S'il n'y avait peut-être pas cet épisode des élections législatives anticipées, le Rassemblement national se croirait déjà immédiatement installé à l'Élysée en 2027. Et ils n'ont eu de cesse de le réclamer. Ils avaient d'ailleurs demandé à ce que Macron écoute son mandat après les élections européennes. Donc, il est légitime et normal et politiquement calculé que Macron puisse organiser des élections législatives. Maintenant, le résultat auquel il est arrivé ne semble peut-être pas être celui qu'il attendait. Quelque part, on a vu que Macron avait fait le pari de se dire que, selon la tendance, le RN serait majoritaire et qu'il fallait leur donner les clés de Matignon pour leur éviter d'aller à l'Élysée en 2027 parce qu'il pensait certainement que le RN allait se cramer à Matignon.
Alors, c'est s'il s'agissait cas. D'un pari de la part du président français, il semblerait que ce pari soit raté. Les électeurs français ont donc empêché le RN, parti d'extrême droite, d'avoir la majorité absolue. Selon vous, Sédi Kaba, le pire des scénarios pour le pays a-t-il été écarté ou ce n'est que partie remise, comme l'a dit cette semaine Marine Le Pen, la chef du RN?
Alors, le pire a été évité dans l'installation du Front National à Matignon, au gouvernement. Mais ce qui a permis de cette installation, c'est le Front républicain, les alliances contre nature évoquées par ma consoeur du Bénin. Mais cet échec ne présage en rien de ce qui va arriver en 2027.
D'ailleurs, le mot échec a beaucoup été utilisé au lendemain de ces législatives. Est-ce vraiment un échec de la part du RN, selon vous?
Oui, le RN a échoué dans sa volonté parce qu'il avait déjà commencé à former son gouvernement. Il était convaincu qu'il allait venir à Matignon. Jordan Bardella avait commencé à prendre des airs de Premier ministre. Donc, de ce point de vue, l'objectif de l'installation de Matignon n'a pas été atteint. Mais pour moi, ça ne présage en rien de ce qui va arriver en 2027. Parce qu'en 2027, c'est un scrutin direct. On va élire directement. Il n'y aura pas de triangulaire. Et comme on a pu le voir pour éviter l'arrivée du RN à l'Élysée, il ne faut pas écarter cette possibilité que le RN rebondissent encore, se remettent encore de ces cendres, de cet échec. Moi, je pense qu'il faut rester prudent dans l'appréciation de ce qui peut arriver en 2027.
Cécile Goudou, en France, une grande partie des médias s'accordent à dire que le Rassemblement national a échoué aux portes de Matignon. Vous, pensez-vous que l'on peut qualifier le score du Rassemblement national comme un échec?
Le Rassemblement national a échoué. Quand on prend les chiffres, le Rassemblement national n'a pas eu le nombre de députés qu'il escomptait. Et Sédi Kaba l'a évoqué, Jordan Bardella qui partageait déjà les rôles entre Macron et lui et tout, ce rêve a été brisé. Donc c'est un échec, il faut appeler un chat un chat.
Alors le nouveau Front populaire, l'alliance des partis de gauche est donc sorti en tête du second tour des législatives en France dimanche dernier. Mais il tarde à présenter un candidat au poste de Premier ministre. Madian Baldian à Dakar, comprenez-vous les tergiversations des partis de gauche à ce sujet?
Bon, en fait, ça ne peut pas étonner que les partis de gauche n'arrivent pas à s'entendre pour proposer un Premier ministre. C'est une alliance qui, dès le départ, n'avait qu'un seul objectif, un objectif électoraliste. Ils avaient des obédiences ou des programmes politiques ou des programmes de gouvernement totalement opposés ou totalement différents, sans compter les clivages, pour ne pas dire les inimitiés personnelles entre les leaders de la gauche française. Donc aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de proposer un gouvernement, dans l'incapacité de proposer un chef de gouvernement.
Selon vous, il s'agit de problèmes d'ego ou d'impréparation?
Tout à la fois, problème d'ego, d'impréparation, mais aussi de sur quoi s'accorder pour gouverner. Parce que s'il faut, par exemple, renverser la table simplement, c'était l'objectif affiché par beaucoup de responsables de la gauche, notamment de l'extrême gauche, c'est pas suffisant comme programme politique. Encore qu'ils sont limités dans cet objectif par leur majorité relative à l'Assemblée nationale, qui ne leur permet pas de constituer un gouvernement ou d'élargir leur pôle d'alliance. Aujourd'hui, s'il y a une majorité à constituer, elle proviendra forcément d'autres familles politiques, ce qui n'est même pas encore évident. C'est vous dire simplement que moi, je ne crois pas à un gouvernement de gauche. Je trouve que la revendication de légitimité absolue de la gauche de gouverner ne me paraît pas appropriée. S'ils avaient une majorité claire, une majorité absolue, ça ne se discuterait pas du point de vue des principes et des règles de la Ve République. Ce qui n'est pas le cas, la France est obligée de s'accommoder de coalitions et cette coalition peut venir de différents groupes minoritaires à l'Assemblée nationale, comme cela se fait dans différents pays européens. Donc, pour moi, il n'y a pas à recréer la roue, c'est de voir dans quelles sont les familles politiques qui peuvent s'entendre, qui peuvent aller ensemble dans un programme de gouvernement, qu'ils soient de la gauche ou de la droite. Et je pense qu'entre la droite et les centristes, il y a plus d'atomes crochus ou de perspectives de collaboration efficace qu'on pourrait trouver dans le camp de les nouvelles forces populaires, disons, le groupe de gauche.
Madian Baldian, on aura compris hein, votre vision et surtout le fait que vous ne croyez pas en un gouvernement de gauche. Sedi Kaba, vous y croyez à ce gouvernement de gauche en France dans les prochains jours ?
Si on regarde aujourd'hui, en tout cas telle que la configuration de l'Assemblée nationale, la force politique qui est arrivée la première, c'est le nouveau Front populaire. Donc c'est dans ces rangs qu'on doit choisir le Premier ministre.
Maintenant, mais il semblerait qu'ils ne soient pas tous d'accord sur la désignation du candidat.
Ils ont promis, publié et donné le nom de leur Premier ministre. Ce n'est pas un groupe monolithique. Il y a des divergences, il y a des courants, il y a des sensibilités différentes. Mais ils ont promis, et je rappelle, non seulement qu'ils ont désigné quelqu'un, mais ils se sont déjà entendus sur un programme. Ce n'est pas un programme qu'ils vont réécrire quand ils se seront installés au gouvernement.
Donc le plus important pour vous, c'est le programme et pas forcément la personnalité qui ira à Matignon.
Oui, moi je pense que ils sont d'accord sur le programme, quelle que soit la personne qui va arriver, puisqu'il y a simplement des querelles de leadership et des querelles d'ego aussi, quelle que soit la personne qui aura été désignée, c'est le programme dont les forces de gauche sur lequel les forces de gauche se sont mises d'accord, c'est ce programme-là que la personne qui arrivera à la Matignon va dérouler.
Alors, autre surprise à l'issue de ces législatives en France, c'est le camp présidentiel qui parvient à limiter la casse et qui se classe en deuxième position après les partis de gauche réunis au sein du NFP. Cécile Goudou au Bénin, Emmanuel Macron, le chef d'État français, a-t-il, selon vous, réussi son pari ou, comme le disent certains et comme le pense Madian Baldian, notre confrère au Sénégal, son pari est raté?
On n'attendait pas le camp présidentiel en deuxième position. Quand on observe un peu ce que les sondages donnaient et tout, on voit déjà le macronisme totalement toucher le fond. Mais ça a profité. Moi, je ne dis pas que c'est le pari de Macron. Peut-être que Macron a lancé ce pari-là, mais ce n'est pas lui qui a permis d'obtenir ce résultat que son camp a obtenu. Parce que si vous avez bien observé pendant la campagne électorale, on a bien vu des éléments du camp présidentiel qui n'ont pas voulu du tout associer l'image de Macron.
Néanmoins, Cécile, le camp présidentiel parvient à se classer en deuxième position. Il limite la casse, en quelque sorte.
Il limite la casse parce qu'on aurait eu un grand fossé. Et puis, ça aurait quand même entraîné non seulement une ascension fulgurante du Rassemblement national suivi du bloc de gauche et peut-être ils viendraient très loin après. Et comme je le dis, c'était une belle surprise pour eux, pour leur camp, de les retrouver en deuxième position. Ils pourront servir de tampon quand même entre ces extrêmes-là qui n'arrivent vraiment à rien concilier en matière de gouvernance de la France aujourd'hui.
Alors les différentes composantes politiques vont devoir s'entendre pour éviter un blocage du pays et notamment de l'Assemblée nationale. Or pour le moment, l'ambiance n'est pas vraiment au compromis. La classe politique française n'est pas coutumière du fait. Pensez-vous qu'elle parviendra à dépasser ces clivages pour un bon fonctionnement des institutions, notamment de l'Assemblée nationale, Sedi Kaba?
Non, j'ai vraiment des doutes. Comme vous avez dit, la classe politique française souvent manifeste une certaine immaturité. On a pu voir des grandes coalitions en Allemagne, en Belgique et ailleurs. Mais en France, apparemment, ce n'est pas dans la culture politique de faire des compromis. Il y a souvent la volonté de mettre en avant son ego, c'est d'autres considérations. J'ai la même crainte que vous lorsque vous dites que le pays peut devenir ingouvernable. Si jamais, en tout cas, je pense que ce n'est pas un scénario à exclure totalement que le pays devienne ingouvernable. Imaginons par exemple qu'on désigne un premier ministre issu des rangs de la gauche et que les autres forces politiques se mettent d'accord pour renverser le gouvernement. On va entrer dans une instabilité politique avec tous les jours ou toutes les semaines, en tout cas, des motions de censure.
C'est dit qu'à la France est-elle à l'aube d'une crise politique majeure?
Je pense qu'il y a en tout cas une menace, une incertitude sur le plan institutionnel et sur le plan politique. Nous sommes dans un schéma inédit. Le pays nous sommes dans une république le gouvernement, le parti qui a la majorité a la charge du gouvernement. Et là, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On peut aller dans une très grande incertitude, vraiment.
La situation politique en France, c'est à suivre chaque jour sur RFI et RFI.fr. Enfin, terminons cette émission avec la situation à Gaza, 280e jour de guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Ce vendredi, l'armée israélienne bombardait toujours l'enclave palestinienne. 32 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé lié au Hamas, dans le territoire palestinien, qui souligne cette semaine que l'offensive a provoqué la mort d'au moins 38 345 personnes, en majorité des civils. Cette semaine, la célèbre revue scientifique britannique The Lancet indiquait, selon ses calculs, que ce chiffre était nettement sous-estimé et que la guerre aurait fait au moins 186 000 morts en 10 mois. Trois chercheurs ont compté les personnes tuées directement dans les bombardements, mais également les décès indirects passés et à venir liés au manque de soins ou à la malnutrition. Maldiambaldian, arrêtons-nous un instant sur ce chiffre avancé par The Lancet. Selon vous, est-il réaliste ?
Réaliste, je ne saurais le dire parce que je ne connais pas les critères ou les méthodologies utilisées par ces chercheurs pour arriver à cette conclusion. Maintenant, il y a des chiffres officiels qui sont annoncés par l'autorité palestinienne elle-même ou bien peut-être le Hamas qui parle de 38 000 morts. C'est déjà l'hécatombe, c'est déjà un génocide, c'est déjà quelque chose d'inacceptable humanitairement. Donc 38 000 morts pour un conflit qui dure moins d'un an, c'est plus de 150 morts par jour. C'est une tuerie au vu au sud de tout le monde. Il faut réagir, mettre un terme à cela, et c'est la responsabilité de la communauté internationale, notamment les alliés d'Israël, de faire preuve d'humanité et d'humanisme pour régler cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte électoral aux États-Unis pour prendre une position franche sur la question de Gaza qu'on va laisser ce massacre se poursuivre. Il est important que la communauté internationale et les Nations Unies puissent assurer, disons, un leadership sur cette question de façon déterminante et de façon forte pour qu'on arrive à, disons, je ne dis pas juguler cette situation humanitaire dramatique, mais au moins à arriver à une situation où il y aura une accalmie qui permettra de porter secours et assistance aux populations civiles innocentes de Gaza qui aujourd'hui, disons, qui sont prisonnières d'un conflit auquel elles sont totalement étrangères.
Cécile Goudou au Bénin, ce vendredi, le Hamas a proposé qu'un gouvernement indépendant formé de personnalités n'appartenant à aucun parti dirige la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée après la guerre. Considérez-vous que cette proposition est possible, plausible ?
Je ne sais pas si ça pourra se faire et si c'est ça qui va régler le problème qui se pose. Mais les objectifs d'Israël, ce qui a fait qu'Israël a obtenu beaucoup de soutien au début avant que quelques-uns ne commencent à descendre de la BAC, c'est déjà éradiquer le Hamas et puis libérer les otages. Vous l'avez dit, après 280 jours de bombardement, les otages sont encore là. Et puis, le Hamas continue de mener ses activités. Ça veut dire qu'il y a eu un échec sur ce plan. Mais quand il y a un échec, pourquoi on ne s'arrête pas pour regarder sur les parois, voir ce qu'on autre solution, chercher une autre alternative que de continuer à bombarder autant. Et l'autre chose qui m'étonne, moi, ce soutien des États-Unis. Les États-Unis qui sont aux côtés de Zelensky au niveau de la guerre russo-ukrainienne, qui combattent ces frappes russes, qui combattent la Russie par rapport à ces frappes sur le sol ukrainien, mais qui fournissent des armes parallèlement à Israël de ce côté pour écraser autant un peuple. C'est ce double niveau de position qui me cœur dans ce qu'on observe aujourd'hui dans la bande
alors,
de Gaza.
Cécile, vous avez évoqué le manque de solutions en ce moment, mais certaines discussions, certaines négociations ont cours actuellement au Qatar entre les différentes parties et les belligérants. De son côté, Benjamin Netanyahou continue d'affirmer qu'il souhaite poursuivre la guerre jusqu'à la destruction du Hamas. Sedi Kaba, après 10 mois de guerre, l'armée israélienne a-t-elle réellement les moyens de continuer ce conflit ?
Non, en tout cas, après 10 mois de guerre, la stratégie de l'armée israélienne et du Premier ministre Netanyahou est dans l'impasse. Elle n'a atteint aucun des deux objectifs, éradiquer le Hamas, libérer les otages. Aucun des deux objectifs n'a été atteint. Je crois que Benjamin Netanyahou a aussi un agenda personnel. À partir du moment où la guerre prend fin, les gens vont lui demander la convocation d'élections. Or, lui ne veut pas d'élections anticipées parce que s'il accepte des élections anticipées qu'il pourrait perdre, il va se retrouver face à la justice parce qu'il fait l'objet de poursuites. Donc il y a un agenda personnel dans cette stratégie qui, pour l'instant, n'a pas encore donné de résultats. Et c'est en cela que la pression de l'allié principal d'Israël, que sont les États-Unis, est importante, puisque il n'y a que les États-Unis qui peuvent imposer à Israël l'arrêt de cette guerre, la négociation d'une trêve pour permettre l'accès des secours aux populations qui en ont besoin, la fin de ces massacres quotidiens. Il faut arrêter vraiment ce désastre-là, envisager une solution politique et puis mettre fin à cette guerre qui a déjà fait trop de morts, principalement des femmes et des enfants.
Et c'est avec les mots et le point de vue de notre confrère nigérien que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine en Afrique et ailleurs dans le monde. Ce débat africain, vous pouvez le retrouver et le réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio. Merci à l'équipe grâce à laquelle nous vous proposons chaque semaine cette émission. Delphine Michaud à la coordination et Taguimfa Traoré à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement.